Bienvenue sur Au-delà de la posture, le podcast de yoga et de transformation personnelle. Je suis Jean Etier, enseignant de yoga et coach de vie, et je vous propose toutes les deux semaines des outils concrets pour approfondir votre connaissance de votre monde intérieur et ainsi gagner en confiance, surmonter vos peurs et vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Avez-vous déjà ressenti cette sensation frustrante d'être sur la bonne voie, de progresser vers vos objectifs, de vous libérer des douleurs chroniques, pour ensuite connaître un revirement brutal? Tout semblait bien se dérouler et soudain, les douleurs reviennent en force, vous laissant perplexe et découragé. Si cette expérience vous est familière, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, dans cet épisode, je souhaite explorer avec vous un concept qui défie notre compréhension traditionnelle du progrès et de la guérison. Nous allons explorer en profondeur ce fascinant mécanisme. Nous verrons pourquoi cette augmentation temporaire des symptômes, bien que décourageante, peut en réalité être le signe avant-coureur d'un changement durable vers un mieux-être. Et plus important encore, je vous donnerai des pistes de réflexion pour traverser cette période avec patience et résilience, sans céder à la tentation de tout abandonner. Restez à l'écoute car comprendre ce mécanisme pourrait être la clé pour débloquer enfin votre chemin vers une vie libérée des douleurs chroniques. Le problème souvent rencontré sur le chemin de la guérison est celui de vouloir que le progrès soit linéaire. Nous sommes souvent conditionnés à penser que tout processus d'apprentissage ou de rétablissement devrait suivre une trajectoire directe vers une amélioration constante. Pourtant, la réalité est souvent bien différente. Le processus de désapprentissage et d'apprentissage de nouvelles compétences ne suit pas une courbe de croissance régulière comme celle d'une courbe économique. Il est plutôt marqué par des hauts et des bas, des avancées et des régressions, des moments de clarté et des moments de confusion. Il est probable que si vous écoutez cet épisode, vous avez essayé toutes sortes de choses pour vous libérer de vos douleurs. Vous êtes donc passé par un cycle d'espoir et de désespoir, donc même si vous obtenez une amélioration, quand vous vous retrouvez dans un creux, vous avez un sentiment d'impuissance face à cette difficulté. J'aimerais donc vous parler d'une expérience réalisée dans les années 70 que je trouve très franchement cruelle, mais qui, je pense, peut vous aider à mieux comprendre ce sentiment. Martin Seligman et Stephen Meyer ont réalisé une expérience avec des chiens. Ils ont placé des chiens dans trois groupes. Dans le premier groupe, les chiens étaient juste sanglés dans un harnais pendant un temps, puis relâchés. Dans le deuxième groupe, les chiens étaient sanglés et recevaient des chocs électriques qu'ils pouvaient éviter en appuyant sur un panneau avec leur museau. Dans le troisième groupe, les chiens subissaient les mêmes chocs que le deuxième groupe, mais sans aucun moyen de les contrôler. Les chocs semblaient totalement aléatoires pour eux. Ensuite, plus tard, ces mêmes chiens ont été placés dans une boîte à navette, divisée en deux compartiments séparés par une petite barrière. Le sol était électrifié d'un côté, mais pas de l'autre. Les chiens des groupes 1 et 2 ont vite appris à éviter les chocs en sautant la barrière pour aller de l'autre côté. Mais les chiens du troisième groupe, n'ayant jamais pu contrôler les chocs précédents, ne tentaient rien pour y échapper. Dans cette expérience, les chiens incapables d'échapper aux chocs ont développé une impuissance acquise. À cause de leur expérience passée, ils avaient la perception cognitive qu'aucune action de leur part ne pourrait prévenir ou arrêter les chocs. En d'autres termes, après avoir vécu des événements négatifs incontrôlables, ces chiens avaient en quelque sorte appris qu'ils étaient impuissants face à leurs circonstances. Ils s'étaient résignés et ne tentaient même plus d'échapper à la situation. Ce concept d'impuissance acquise a ensuite été transposé aux êtres humains, et ça veut dire que certaines personnes, après avoir subi des échecs ou des traumatismes, développeraient aussi un sentiment d'impuissance, d'absence de contrôle, favorisant la résignation, le stress et la dépression. Lorsqu'on utilise des approches corps-esprit pour se libérer des douleurs chroniques, le chemin, comme je vous l'ai dit, n'est pas linéaire. On connaît des périodes d'avancée encourageantes où l'on ressent des progrès et une diminution des symptômes, mais il y a aussi inévitablement des phases de stagnation, voire de régression, où les douleurs semblent reprendre le dessus. Et ces moments sont vraiment éprouvants et peuvent semer le doute. Et on finit par penser des choses du genre « je n'y arriverai jamais », « je n'arriverai jamais à me débarrasser de ces douleurs », « rien de ce que j'essaie ne fonctionne », personne ne comprend ce que je vis, et un sentiment d'impuissance acquise peut alors s'installer. On a l'impression d'avoir tout tenté sans résultat, on perd espoir de pouvoir complètement contrôler la situation. Et c'est une forme de découragement profond renforcée par la répétition des crises douloureuses incontrôlables. On se dit « j'ai beau pratiquer les exercices, les douleurs reviennent toujours », et on peut aussi finir par penser « à quoi bon continuer, j'y arriverai jamais ». Cette impuissance ressentie est insidieuse car elle nous fait baisser les bras alors qu'on était sur la bonne voie. Elle nous empêche d'accorder du sens au progrès déjà réalisé et de garder de l'espoir. Il est crucial dans ces phases difficiles de ne pas se laisser envahir par le défaitisme et les pensées négatives généralisées. Gardez à l'esprit que les hauts et les bas font partie intégrante du processus de guérison, ce qui permet de traverser ces moments avec un peu plus de sérénité. Il est crucial d'ajuster nos attentes face au processus de guérison des douleurs chroniques. Au lieu de nous décourager et de nous frustrer, lorsque nous semblons régresser après une période de progrès, il est important de reconnaître que ces hauts et ces bas font partie intégrante du chemin. Ces moments de recul apparents ne sont pas des échecs, mais des étapes naturelles et nécessaires de la traversée. Ils nous rappellent que le rétablissement n'est pas un processus linéaire, mais plutôt une succession d'avancées, de consolidations et parfois de réajustements. Face à ces instants de confusion ou de retour des symptômes, adoptez une posture bienveillante envers vous-même. Dites-vous quelque chose du genre « c'est normal que mon corps et mon esprit aient besoin de temps pour intégrer pleinement ces nouveaux apprentissages, je vis un moment de transition, mais je suis sur la bonne voie ». Ce parcours est vraiment similaire à celui requis lors de l'apprentissage d'une langue étrangère. Certains jours, nous avons l'impression de tout saisir avec fluidité, et à d'autres moments, nous butons sur le vocabulaire le plus basique. Pourtant, chacune de ces phases est riche en enseignements et chaque moment de doute ou d'hésitation nous rapproche un peu plus de la maîtrise durable. De même, avec les douleurs chroniques, embrassez les défis temporaires comme des opportunités de renforcer vos nouveaux réflexes et vos prises de conscience. Ce sont des invitations à approfondir votre pratique avec douceur, avec patience et persévérance. Apprendre de nouvelles compétences pour se libérer de ces douleurs demande une très grande patience et capacité de lâcher prise. Ce processus peut être comparé à l'apprentissage du vélo. Au début, trouver son équilibre sur deux roues semble mission impossible. On perd l'aplomb, on tombe et parfois on se fait très mal. Et pourtant, malgré ces chutes douloureuses, une petite voix intérieure nous murmure que c'est possible. Que nous aussi pouvons y arriver. Et cette motivation tenace nous pousse à remonter en selle encore et encore. On enchaîne les essais dans une répétition apparemment infinie des mêmes gestes. On comprend alors que la maîtrise de l'équilibre n'est pas une compétence qu'on peut acquérir par la seule force mentale, parce que c'est un apprentissage qui se loge dans le corps, dans un dialogue subtil entre les muscles, le système vestibulaire et le cerveau. Et un jour, presque par magie, tout se met en place et soudain, on roule. Dans le cheminement vers le mieux-être face aux douleurs chroniques d'origine neuroplastique, là aussi, il faut d'abord accepter une grande part d'inconfort, de déséquilibre et de chute. Avancer implique de se remettre en selle indéfiniment, avec humilité et persévérance, malgré les moments de découragement. Peu à peu, dans cet enchevêtrement d'essais et d'erreurs, le corps et l'esprit finissent par s'accorder, par trouver de nouveaux réflexes plus sains, et un jour, presque naturellement, l'équilibre est retrouvé. Non pas en le contrôlant mentalement, mais en laissant les intelligences multiples du corps cheminer vers l'apaisement durable. Lorsque nous traversons une période de stagnation ou de régression après avoir expérimenté et fait des progrès significatifs, il est tout à fait normal de ressentir du doute et de l'anxiété. Dans de telles circonstances, notre cerveau en quête de sécurité peut rapidement basculer en mode panique, ce qui déclenche une cascade de pensées anxiogènes telles que « ça ne fonctionne pas, j'y arriverai jamais, toutes mes tentatives sont vaines », etc. Ces réactions sont des mécanismes de défense instinctifs, mais souvent contre-productifs. Et face à ce phénomène, il est essentiel de percevoir le doute non pas comme un adversaire, mais comme une réaction naturelle et automatique de protection de votre cerveau. Ce dernier, confronté à une sensation de douleur ou d'échec perçu comme une menace, active simplement ses mécanismes de défense pour vous protéger du danger supposé. Il est donc important de comprendre que dans le contexte de douleurs neuroplastiques, les signaux d'alarme envoyés par votre cerveau peuvent souvent être des erreurs d'interprétation. Concrètement, votre corps n'est pas en péril, il s'agit plutôt d'une mauvaise interprétation de votre système nerveux, des signaux qu'il perçoit. Il est selon moi crucial de saisir que la douleur que vous ressentez n'est pas directement produite par votre corps, bien que ce soit là que vous la ressentiez. Pour mieux comprendre ce phénomène, je pense qu'il est utile de le comparer au processus de la vision. Tout comme les yeux qui captent et transmettent les informations visuelles au cerveau via le nerf optique, les récepteurs de la douleur dans votre corps fonctionnent de manière similaire. Ils ne créent pas la douleur, ils se contentent de relayer des informations sensorielles au cerveau. Prenons l'exemple des yeux. Ils ne produisent pas les images que nous voyons. Les yeux détectent simplement la lumière et les formes, puis envoient ces données brutes au cerveau. C'est ensuite le cerveau qui, en interprétant ces données, génère l'image visuelle que nous percevons. Ce processus est le fruit d'une complexe interaction entre les données reçues et les expériences passées, les attentes et même les émotions. De façon analogue, la douleur est créée par le cerveau qui interprète les signaux envoyés par les récepteurs corporels. Cette interprétation dépend non seulement des signaux eux-mêmes, mais aussi du contexte psychologique, de l'état émotionnel et des expériences passées. Par exemple, dans des situations de stress ou d'anxiété, le cerveau peut interpréter les signaux de façon plus intense, ce qui augmente la sensation de la douleur. Comprendre que la douleur est une construction subjective du cerveau peut être vraiment libérateur. Ça signifie que les interventions qui influencent la manière dont le cerveau traite les informations sensorielles, comme la méditation, la relaxation, l'hypnothérapie, etc., peuvent vraiment aider à interpréter les signaux de douleur différemment. Et ça peut vraiment souvent réduire l'intensité de la douleur ressentie, vous offrant ainsi une nouvelle voie pour le soulagement et le bien-être. Si vous vous sentez envahi par des pensées défaitistes et de l'anxiété, il est essentiel de prendre un instant pour vous recentrer. Commencez par une profonde respiration en inspirant et expirant lentement. Vous signalez à votre corps que le moment de panique peut être géré calmement. Pendant que vous respirez, adressez-vous à vous-même avec réassurance en pensant ou en disant à haute voix, je comprends que mon cerveau soit préoccupé et qu'il réagisse par la peur, mais cette perception est erronée. Ce que je ressens est simplement une phase temporaire, je suis en sécurité, il n'y a pas de danger immédiat. Il est bénéfique d'accueillir ces moments de doute avec autant de compassion et de patience qu'un parent bienveillant le ferait en observant un enfant qui apprend à marcher. Les chutes et les hésitations de l'enfant ne sont pas des signes d'échec, mais des étapes naturelles et nécessaires de l'apprentissage. De même, reconnaître et accepter vos propres émotions négatives comme des étapes naturelles dans votre parcours vers un mieux-être peut vraiment vous aider à construire un sentiment de sécurité émotionnelle plus fort. Il arrive parfois que lorsqu'une période de tranquillité s'installe après des épisodes douloureux ou stressants, une peur irrationnelle émerge, celle de ne plus ressentir de douleur. Et cette situation peut paraître complètement paradoxale, mais elle est vraiment assez commune. En effet, après avoir été habitué à une certaine souffrance, son absence peut sembler suspecte, voire angoissante. Cette peur peut vraiment être le signe que l'anxiété, ne trouvant plus de douleur sur laquelle se focaliser, a simplement déplacé son attention vers un autre problème. Pour gérer cette situation, il est essentiel de se concentrer directement sur l'anxiété plutôt que sur le fait que vous n'avez plus mal. Et un exercice très utile pour ça est de s'accorder des périodes dédiées à l'inquiétude. L'idée, c'est de définir un moment précis dans la journée, limité à une durée spécifique, par exemple entre 15 à 20 minutes, et pendant ce temps, vous permettez à votre esprit de s'exprimer librement sur ses craintes. Hors de ce créneau, chaque fois que vous vous surprenez à vous inquiéter, vous pouvez noter la pensée et la reporter à votre période de préoccupation. Ça aide à contrôler l'hyperfocus sur l'anxiété et à reprendre le contrôle de vos pensées. Attendre que tout soit parfait pour commencer à apprécier la vie est une attitude que beaucoup adoptent sans même s'en rendre compte. Cet état d'esprit repose souvent sur une pensée dichotomique, c'est-à-dire une vision binaire où les situations sont soit tout à fait bonnes, soit complètement mauvaises. Et cette manière de penser peut nous conduire à croire que le bonheur ne sera atteignable que lorsque certaines conditions seront parfaitement alignées. Ce sont des idées telles que « quand j'aurai plus d'argent, tout ira mieux. Quand j'aurai perdu du poids, je me sentirai mieux dans mon corps. Quand les enfants seront plus grands, tout sera plus simple. Quand je serai à la retraite, je pourrai enfin faire ce que je veux. Et naturellement, quand je n'aurai plus mal, je pourrai enfin être heureux. » Et pourtant, ce mode de pensée est une fausse croyance qui néglige la complexité et la richesse des expériences humaines. La réalité est souvent bien plus nuancée que ce que la pensée dichotomique nous laisse envisager. Il est tout à fait possible de ressentir simultanément des émotions ou des sensations physiques apparemment contradictoires. Par exemple, il est tout à fait possible de ressentir de la joie et de rire, même si on a mal au dos. De même, nos relations avec les autres peuvent être teintées d'affection profonde, tout en étant par moments frustrante ou irritante. Et cette capacité à éprouver des sentiments complexes est un aspect fondamental de l'expérience humaine. Reconnaître que l'on peut aimer quelqu'un et éprouver de la frustration envers cette même personne, ou se sentir à la fois triste qu'une étape de notre vie se termine et soulagé de passer à autre chose, c'est accepter la richesse des émotions humaines. Et ces expériences simultanées ne diminuent pas la validité de chacun des sentiments, elles témoignent plutôt de notre capacité à naviguer dans un monde rempli de nuances. Pour ceux qui s'efforcent de repousser le bonheur jusqu'à ce que tout soit parfait, il est important de réaliser que le bonheur ne dépend pas de conditions extérieures idéales, mais peut être complètement trouvé dans l'appréciation des petites victoires et des plaisirs quotidiens. En pratiquant la gratitude et en se concentrant sur le moment présent, on peut découvrir que le bonheur ne réside pas dans la perfection, mais dans l'acceptation et la célébration de l'imperfection. En s'éloignant de la pensée binaire, de cette pensée dichotomique, et en s'ouvrant à une vision plus flexible et inclusive de la vie, on s'ouvre à une expérience plus riche et plus satisfaisante où le bonheur n'est pas un objectif lointain à attendre, mais une partie intégrante du voyage qui est accessible à chaque étape, malgré ou peut-être grâce à ses imperfections. Vivre avec des douleurs chroniques neuroplastiques peut être extrêmement éprouvant, en particulier lorsque votre environnement quotidien est rempli de distractions et que vous n'avez pas établi des limites claires pour vous protéger de ces exigences constantes. Dans ce contexte, si votre système nerveux est hypersensible et surprotecteur, il peut être continuellement en alerte, scrutant à la fois votre environnement intérieur et extérieur à la recherche de sources potentielles de danger. Cela peut intensifier vos sensations de douleur et augmenter votre fatigue et, ce faisant, diminuant ainsi votre capacité à gérer efficacement votre douleur. Pour mieux gérer cette situation, il est important de réfléchir à votre interaction avec votre environnement de vie et de travail. Interrogez-vous sur le temps que vous vous accordez pour des activités qui vous détendent et qui détendent à la fois votre esprit et votre corps. Évaluez votre charge de travail. Est-ce que vous travaillez de manière excessive au point que cela nuit à votre bien-être personnel? Avez-vous tendance à prioriser systématiquement les besoins des autres au détriment des vôtres? Et il est également important de considérer comment vous faites face aux situations stressantes, que ce soit dans votre environnement professionnel ou personnel. Si vous avez du mal à établir des limites saines, notamment à dire non quand cela est nécessaire, cela peut exacerber vos douleurs. De même, si vous vous sentez submergé par le temps ou si vous êtes constamment hyper connecté aux réseaux sociaux ou à votre téléphone, cela peut être un signe que vous devez ajuster votre gestion du temps et protéger le temps que vous passez avec vous-même. Parfois, s'engager dans des conversations difficiles avec des collègues, des amis ou votre conjoint est indispensable. Bien que ces discussions puissent être inconfortables, elles sont essentielles pour fixer des limites claires et assurer que votre environnement soutient votre gestion de la douleur au lieu de l'aggraver. En prenant conscience de votre environnement et de son impact sur vos douleurs, vous faites un pas important vers un meilleur équilibre de vie. Ces changements peuvent non seulement renforcer votre résilience face aux défis quotidiens, mais aussi améliorer de manière significative la perception de la douleur et par conséquent votre qualité de vie. Si vous avez effectué les ajustements nécessaires dans votre vie en établissant des limites claires dans vos relations et sur le plan émotionnel, et que vous avez appris à vous connecter à vos émotions et à les accueillir, mais que vous rencontrez à nouveau des douleurs, alors il se peut que vous soyez confronté à ce qu'on appelle une poussée avant l'extinction. Ce terme est souvent cité par des experts comme Alan Gordon et ça désigne une phase parfois déroutante mais essentielle du processus de guérison. L'origine du terme, c'est un terme anglais qui s'appelle « extinction burst » et ça vient de la psychologie comportementale et décrit un phénomène où, juste avant qu'un comportement appris ne disparaisse totalement, il se manifeste une dernière fois de façon exacerbée. Donc appliqué à la douleur, ça signifie que juste au moment où une amélioration significative semble à portée de main et où on pense être sur la voie de la guérison, les symptômes peuvent s'intensifier brusquement. Et cette intensification, bien qu'alarmante, est généralement le signe que le corps et l'esprit sont en train de s'ajuster à un nouvel équilibre et se préparent à se libérer définitivement des anciennes douleurs. Cette poussée de douleur peut donc survenir lorsque tout semble aller pour le mieux, et elle représente vraiment un paradoxe difficile à comprendre, parce qu'on finit par se demander mais pourquoi les symptômes s'intensifient-ils alors que des progrès significatifs semblent avoir été réalisés? Ça peut générer de la confusion et de la frustration, mais comprendre ce mécanisme peut vous aider à naviguer plus sereinement à travers cette phase. Imaginez que vous avez une habitude que vous voulez arrêter, comme grignoter des biscuits le soir. Au début, lorsque vous essayez d'arrêter ça, ça peut être assez difficile. Vous vous dites « Ok, plus de biscuits », mais vous vous trouvez toujours en train de vous diriger vers le placard à biscuits. Et c'est un peu comme si votre cerveau résistait au changement. Eh bien, la poussée avant l'extinction, c'est un peu comme une explosion de cette résistance. C'est lorsque votre cerveau, qui est habitué à quelque chose, comme ressentir la douleur chronique, réagit de manière plus intense lorsqu'il se rend compte que quelque chose change. Et c'est comme s'il vous disait « Hé, pourquoi tu essaies de changer les choses? Je veux que ça reste comme avant. » Dans le contexte des douleurs chroniques, ça peut se produire lorsque vous commencez à utiliser des techniques pour vous libérer de vos douleurs, comme les techniques que je vous ai enseignées au fil des épisodes. Et votre corps et votre cerveau sont habitués à ressentir cette douleur, donc lorsque vous essayez quelque chose de nouveau pour la gérer, il peut y avoir une réaction initiale où la douleur semble s'intensifier temporairement. C'est comme si votre cerveau essayait de vous faire revenir à votre ancienne habitude de ressentir la douleur. Pourtant, la poussée avant l'extinction est généralement un signe que le changement est en train de se produire. C'est comme si votre cerveau testait vos nouvelles habitudes pour voir si vous êtes sérieux à leur sujet. Si vous continuez à utiliser les techniques que je vous ai enseignées au fil des épisodes, en dépit de l'intensification temporaire, votre cerveau finira par s'adapter et la douleur chronique peut commencer à diminuer. C'est difficile, je le conçois, mais c'est souvent un signe que vous êtes sur la bonne voie vers le changement. En prenant conscience de ce processus, vous pouvez aborder cette période avec patience et persévérance, sachant que ces symptômes exacerbés sont souvent les précurseurs d'une guérison plus profonde et durable. Reconnaître cette étape comme une partie naturelle du processus de guérison peut vous apporter du réconfort et renforcer votre détermination à poursuivre les stratégies dont je vous ai parlé. Si vous vous retrouvez submergé par la peur lors d'une poussée avant l'extinction, ça peut être une expérience très intimidante. Et cette peur peut sembler écrasante sur le moment et ça peut vraiment menacer de vous ramener dans le cycle néfaste douleur, peur. Mais il est crucial de reconnaître que céder à cette peur ne fait qu'alimenter ce cycle et peut même vous amener à douter des progrès que vous avez accomplis. Il est vraiment facile de se sentir découragé, voire de penser que les méthodes que vous avez tentées pour soulager la douleur ne fonctionnent pas ou plus, et que l'espoir que vous aviez placé en elles était vraiment en vain. Pourtant, il est important de se rendre compte que ces moments ne sont pas des échecs, mais des étapes prévisibles sur le chemin vers le soulagement et le bien-être. Lorsque vous vous trouvez confronté à ces moments de doute et de peur, il est crucial de choisir consciemment votre réaction. Vous avez le pouvoir de décider comment vous allez répondre à ces défis. Vous pouvez choisir de vous laisser submerger par la peur, de laisser cette peur dicter vos actions et vos pensées, ou bien vous pouvez choisir de vous adresser directement à cette peur, de lui parler d'une manière aimante et affirmante. Par exemple, face à une crise de douleur ou à une augmentation soudaine de la douleur, vous pouvez choisir de communiquer avec cette douleur. Vous pouvez lui dire quelque chose du genre « Je comprends que tu cherches à me protéger en réactivant ces vieilles stratégies, mais ce n'est plus nécessaire. Je suis en sécurité, la méthode fonctionne, tout va bien se passer. » Cette approche vous permet de reconnaître la peur tout en affirmant votre pouvoir sur elle. Vous lui retirez ainsi son pouvoir de contrôler votre vie et vos choix. Vous vous positionnez en tant que maître de votre propre destin, capable de faire face aux défis avec force et résilience. En fin de compte, rappelez-vous que la peur n'a que le pouvoir que vous lui accordez. En vous affirmant et en choisissant de répondre avec compassion et assurance, vous pouvez prendre le contrôle de votre vie et avancer sur le chemin de la guérison et du bien-être. Alors, je tiens vraiment à vous rappeler que quelque chose de fondamental. Même si le chemin vers la guérison des douleurs chroniques peut sembler jalonné d'obstacles et parfois solitaire, chaque pas que vous faites est un pas vers un mieux-être. Nous avons exploré aujourd'hui des stratégies et des idées qui, je l'espère, vous aideront à regarder ces défis non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des étapes d'un voyage qui vous mène vers une plus grande maîtrise de votre vie et de votre santé. Souvenez-vous que chaque moment de doute, chaque phase de douleur renouvelée et même chaque sentiment d'impuissance font partie de ce processus complexe de guérison. Ils ne définissent pas votre parcours. Ils le ponctuent, vous offrant des opportunités pour apprendre et grandir. Gardez cette perspective à l'esprit. La guérison est un voyage, pas une destination. Chaque jour vous offre une nouvelle possibilité de progresser, de comprendre davantage votre corps et votre esprit, et de renforcer votre capacité à faire face à cette difficulté. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Partout dans le monde, des personnes partagent des expériences similaires et aussi les mêmes espoirs. Continuez à chercher, continuez à apprendre et à expérimenter pour faire l'expérience de ce mieux-être que vous méritez. Si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon programme de coaching où je vous aide à trouver votre voie intérieure et à oser vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Si vous souhaitez explorer ces concepts, approfondir vos connaissances et avancer dans votre pratique du yoga, je propose une formation en ligne à l'enseignement du yoga thérapeutique et vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Yoga thérapie, c'est en un mot et au pluriel.